Chapitre 3. 2 juillet, en mer. Voici juste un mois que nous avons quitté Marseille et nous sommes en route pour Malte. Depuis la journée de Montréal, et je vis dans une sorte de fièvre, dans un rêve inquiet et ravi. La même vie a continué à bord. Les mêmes petits faits s'y sont reproduits régulièrement. Antoine a toujours les mêmes sautes de santé et d'humeur. Tantôt, il semble presque bien, tantôt il retombe dans son hypocondrie. Alors il déblatère contre son existence passée, il peste contre ses folies, s'irrite contre les conséquences déplorables qu'elles ont eues pour lui. Il affiche son mépris des femmes, son dégoût pour tout ce qui le passionnait jadis. D'autres fois, il est tout à l'espoir de sa guérison. Il est gai, il plaisante. Il taquine la pauvre Madame Bruvane sur la cour que lui fait Gernon. Il menace Madame Subani de décourner M. Subani de ses devoirs conjugaux à la première escale. Il est presque galant avec Madame de Lérins. Autour de nous, les heures passent dans leur ordre accoutumé. Rien de plus monotone que la vie marine. Tout s'y accomplit avec la même ponctualité depuis le matin, le lavage du pont à grande eau, jusqu'au coup de sifflet qui, au coucher du soleil, donne le signal d'amener les couleurs. Chaque soir ainsi, je vois s'abaisser le pavillon et descendre le long du mât la flamme triangulaire où, sur un fond rouge, se contourne un amphisbène d'or. Puis la nuit vient. Les quarts se succèdent, les feux de position sont allumés, je descends dans ma chambre, à moins que je ne préfère m'étendre sur le pont. Partout, toujours, une seule pensée m'occupe. Ah, cette pensée, comme elle me tourmente en sa parfaite simplicité. Elle se résume en quelques mots, me faire aimer de l'or. Ces mots prononcés me mettent en présence du problème le plus difficile, le plus inextricable. Me faire aimer. Mais quel moyen employer pour y réussir? Alors ma pensée vagabonde s'agite, se disperse en mille solutions, se perd en hypothèses et finit toujours par revenir sur elle-même. Se faire aimer. Ah, tous ceux qui ont aimé me comprendront, partageront mes angoisses, angoisses douloureuses et délicieuses à la fois. Que de projets insensés j'ai faits ainsi, quels événements impossibles j'ai souhaités. Jamais je n'ai plus vivement regretté d'être ce que je suis. Jamais je n'ai eu plus honte de moi-même. Jamais je n'ai appelé plus avidement à mon aide les dieux et les génies. Jamais je n'ai désiré plus avidement le coup de baguette transformateur. Oui, pourquoi suis-je moi? Pourquoi ne suis-je pas un autre, plus beau, plus jeune, plus séduisant? L'autre jour, nous avions quitté la rade de Syracuse, et l'amphisbème avait mis le cap sur Porto Empédocle, d'où nous devions aller à Girgenti. Comme nous sortions du détroit de Messine, une forte houle s'est déclarée qui nous a pris par le travers. Le yacht s'est mis à rouler sensiblement. Madame Bruvane, les Subani, Gernon, qui n'ont pas le pied très marin, se sont réfugiés dans leur cabine. J'apercevais Antoine monté sur la passerelle pour causer avec le commandant. Madame de Lérins et moi, nous étions restés sous la tente. Parfois, le vent faisait claquer un pan de la toile. Nous recevions au visage un souffle ardent et chaud. Le voile de l'eau s'agitait. Une mèche de sa coiffure s'échevelait, qu'elle rajustait avec impatience. Puis elle sortit de son sac à main un petit miroir, qu'elle laissa tomber sur ses genoux, d'où il glissa sur le pont. Je me suis baissé pour le ramasser, et en le lui rendant, j'y ai aperçu mon image. Oh, ma pauvre image, comme je l'ai détestée en ce moment. Je n'ai cependant jamais été fat, et je ne pensais guère auparavant que pour un homme plus ou moins de beauté eût à avoir une importance quelconque. Ce visage qui est le mien, je n'ai jamais songé jusqu'à présent à m'en réjouir ou à m'en plaindre. Il me paraissait suffisant et sans intérêt. Je l'ai laissé commencer à vieillir sans me préoccuper de lui. Mais maintenant, quel amer regret je ressens à le considérer. Ah, pouvoir rajeunir, être séduisant, être beau. Et cependant, tandis que j'éprouve ce sentiment, j'en constate le ridicule et l'enfantillage. Malgré cela, je ne puis m'empêcher de penser ainsi. Être beau ou être puissant, et pourtant ni la beauté ni la puissance ne font que l'on soit aimé. L'amour tient à des lois mystérieuses, à des attractions illogiques et inexplicables. Aurais-je le profil d'Antinous, la puissance de Napoléon, la richesse de Crésus, rien de tout cela ne me donnerait la certitude que je souhaite. Non, des pauvres, des infirmes, des humbles ont été passionnément aimés. Il y a des êtres que tout semblait éloigné de l'amour et que l'amour a magnifiquement favorisé. Et toujours, j'en reviens à ce problème, comment me faire aimer de l'or ? Comment convertir en amour ce sentiment d'estime et d'amitié qu'elle a pour moi ? Comment opérer la transmutation magique ? Par quelle merveilleuse alchimie extraire le diamant du charbon ? Je suis comme quelqu'un qui se trouverait en présence d'un miracle à accomplir, et pour le produire, ce miracle, je n'ai que mon amour. C'est lui qui doit convaincre l'or, ou au moins incliner vers moi sa pitié. Sa pitié, hélas, n'est-ce point peut-être là tout mon espoir ? Quand elle aura compris mon amour, peut-être s'en laissera-t-elle toucher. Qui sait même si elle ne la poussera pas, cette pitié, au point de me laisser croire qu'elle m'aime. En mer, même date. La nuit dernière, j'ai fait ce rêve. C'était dans des années, j'étais très vieux, infiniment vieux. De cette vieillesse, je me rendais compte, je ne sais comment. J'habitais dans une ville dont je ne sais pas le nom, une vieille, une très vieille maison. Tout cela dans mon esprit était lointain, vague, indécis. Mais cette ville devait être au bord de la mer. Oui, oui, cette ville était au bord de la mer. On y respirait une odeur de sel et d'iode. Et dans cette odeur, dans cet iode, dans ce sel, mon corps était conservé, macéré, durci, comme le corps d'une antique momie. L'atmosphère que l'on respirait dans cette ville était opaque et trouble. Parfois, on entendait la mer déferler, et puis il y avait de grands silences. Parfois aussi, on entendait la sirène lointaine et rauque de quelques bateaux invisibles. Je vivais là, solitaire et reclus. Jamais je ne sortais de ma chambre, et cette chambre était très vieille, très délabrée. La tenture était déchirée, et à certains endroits, pendait en lambeaux le long du mur. Cette chambre était bizarrement meublée de meubles disparates. Elle contenait des objets hétéroclites et singuliers dont j'ignorais la provenance. Sur une table sans tapis et dont le bois était extraordinairement vermoulu, étaient placés des modèles de bateaux. Oh, il y en avait de toutes les tailles et de toutes les formes. L'un d'eux représentait le bateau avec lequel je jouais lorsque j'étais enfant sur le bassin des Tuileries. Auprès de celui-là, s'en trouvait un autre, plus grand. Sur une pancarte, placée à l'arrière, était écrit l'amphisbène. La coque de ce jouet, peinte en vert et en blanc, était toute craquelée, toute couverte de mousse et d'algues, toute incrustée de coquillages, comme une épave longtemps sous-marine. Je passais de longues heures à regarder ce navire minuscule. Parfois, je le prenais sur mes genoux et le berçais d'une houle imaginaire. Je l'enveloppais du pan de la longue robe de chambre à fleurs dont j'étais vêtu et dont les amples plis flottaient autour de mon corps maigre et voûté. Et c'est dans cet accoutrement que je rôdais à travers les chambres, toujours désertes, de cette maison retirée. Souvent, j'allais jusqu'au haut de l'escalier. Là, je me penchais sur la rampe et je prêtais l'oreille. J'attendais quelqu'un. Soudain, la sonnette retentissait, une sonnette lointaine et fêlée. Un pas résonnait dans le corridor, et je voyais apparaître le vieux Feller. Oh, il était encore beaucoup plus vieux et plus courbé que moi, mais en dépit des années, il avait conservé sa figure rose et ses yeux bleus. Comme moi, il était accoutré d'une robe de chambre à fleurs et portait une flûte sous le bras. Feller s'asseyait auprès de moi sur un canapé dont les ressorts usés gémissaient, puis il tirait de sa poche une médaille d'argent et la posait avec soin sur un guéridon placé devant nous. Je me penchais pour la regarder, et sa face présentait l'effigie d'une très jolie femme coiffée à la mode du Second Empire. Alors Feller portait sa flûte à ses lèvres et se mettait à jouer un air sautillant et saccadé. Et cet air, je le reconnaissais. C'était celui qui plaisait jadis à cette comtesse polonaise dont Feller était amoureux. Moi, je l'écoutais avec un vif sentiment de honte et d'infériorité. Hélas, je n'avais pas dans ma poche de belles médailles, je n'avais pas de flûte, je ne savais aucun air. Et cependant, comme Feller, j'avais été jeune et amoureux. Mais lui, il avait été aimé, tandis que moi, et de longues larmes coulaient sur mes joues. À ce moment, je me suis réveillé, l'aube blanchissait ma cabine, les matelots lavaient le pont du yacht à grande eau et l'eau ruisselait en cascade devant la vitre de mon hublot. 5 juillet, La Valette, île de Malte. Nous sommes à Malte. Antoine a été repris subitement de ses goûts sportifs, ce qui est un grand signe de l'amélioration de son état, et il va l'après-midi voir les officiers de la garnison anglaise jouer au polo. À peine est-il arrivé que l'un d'eux, M. Lewis Burton, s'est présenté sur l'Amphis Ben. Antoine avait connu ce M. Burton à Deauville il y a 2 ans. C'est un grand garçon, sec, anguleux, distingué. Il a emmené Antoine à son club, qui est installé fort confortablement dans une des anciennes auberges des chevaliers. Cette auberge est un grand palais construit à l'italienne et qui ne manque pas d'allure. M. Burton nous en a fait fort aimablement les honneurs. Pour remercier messieurs les officiers de leur politesse, il y a eu ce soir un dîner à bord de l'Amphis Ben. M. Burton et quelques-uns de ses camarades étaient les hôtes de Mme Bruvan. Pendant le dîner, Antoine a été fort gai. Mme Bruvan était enchantée. Les subagis ont représenté fort dignement la haute industrie française. Gerdon a été convenable et a mangé prodigieusement. Il commence à engraisser et à se prendre un petit ventre rondelet. Les jeunes officiers anglais considéraient avec une certaine sympathie ce personnage à la Dickens. Quant à Laure, elle était délicieuse. Elle portait une robe de soirée décolletée. C'est la première fois que je vois ses épaules nues. Après dîner, Antoine lui a fait de vifs compliments sur sa toilette. Elle a ri et s'est retournée vers moi d'un air tendre. 6 juillet. Gernon s'est enfermé dans sa cabine pour préparer un article de revue. Les subanis sont allés avec Antoine au polo. Madame Bruvan est restée à lire. Madame de Lérins et moi, nous sommes partis pour faire une promenade dans l'île. On trouve à la Valette d'amusantes petites voitures couvertes d'un toit de toile, avec des rideaux que l'on ouvre ou ferme à volonté, et dont les chevaux, vifs et nerveux, grimpent allègrement la pente roide qui conduit au port de la ville. Elle est curieuse, cette ville, avec ses grandes auberges, ses boutiques à la fois très italiennes et très anglaises. Les Maltèses y portent encore la bizarre coiffure nommée fandetta, qui leur enveloppe la tête comme d'une conque d'étoffe. Ce fut à travers ces rues que nous gagnâmes l'antique poterne par où l'on sort de la Valette. Cette poterne s'ouvre dans les murailles qui, de ce côté, dominent un profond ravin. Aussitôt, nous voici en pleine campagne. Le paysage est d'une assez sèche aridité. Au loin, la mer étincelle sous le soleil. Nous avons laissé le cocher libre de diriger notre promenade. Il nous a annoncé en mauvais anglais qu'il nous menait à San Antonio. Nous sûmes bientôt que San Antonio est un des villages de l'île. Il n'a guère d'autre intérêt que de contenir un assez beau jardin. Ce jardin est planté dans un pli de terrain qui abrite les vents du large. D'étroits canaux en entretiennent la fraîcheur et les fleurs y poussent en abondance. Le dimanche, on fait là de la musique et les habitants de la Valette s'y rendent en partie pour écouter le concert et pour se promener dans les allées. Aujourd'hui, le jardin est à peu près désert. Laure et moi y avons erré assez longtemps. Il me semble maintenant que je puis mieux lui dire ce que je ressens pour elle. Certes, je suis incapable de lui peindre mon amour dans toute sa vérité, mais peut-être au moins en entrevoit-elle la profondeur. Elle m'écoute avec attention et bienveillance, avec sérieux. Elle m'écoute lui raconter ma vie et lui dire quelle place elle y a prise, comment elle en est devenue la pensée constante, comment tout a disparu devant elle, comment tout en moi l'attendait. On a décidé ce soir qu'en quittant Malte, l'amphisbène se dirigerait vers l'île de Crète et que l'on visiterait ensuite quelques-unes des Cyclades. Antoine a fort galamment demandé à Madame de Lérins si cet itinéraire lui convenait. Laure a acquiescé au projet. En mer, 10 juillet. La mer s'est calmée et je puis de nouveau reprendre le gros cahier de Néroli. Nous avions quitté Malte par un très beau temps et nous étions déjà à plus de mi-chemin de Candie. Quand nous avons été assaillis par un coup de vent d'une extrême violence, cela s'est déclaré subitement. Vers 9 heures du soir, la mer est devenue brusquement très mauvaise et l'amphisbène a commencé à subir un fort roulis. Madame Bruvane, les Subanies et Gernon n'y ont pas résisté longtemps et ont regagné en toute hâte leur cabine. Antoine n'a pas tardé à les suivre. Et Madame de Lérins s'est retirée également avec un peu de migraine. Comme il ventait d'une façon assez désagréable, je suis descendu aussi me coucher. J'étais dans mon lit, tâchant de m'endormir, quand je m'aperçus que le roulis augmentait considérablement. À ce moment, on est venu fermer les obturateurs des hublots. Décidément, la nuit s'annonçait mal. De lourds paquets d'eau déferlaient, le vent ronflait avec fureur. Je tâchais en vain de m'endormir. Et bientôt le vacarme redoubla. C'était une véritable tempête qui se déchaînait. Les meubles entrèrent en danse. Deux chaises se mirent à valser au milieu de ma cabine. Un des tiroirs de ma commode, que j'avais oublié de fermer, dégringola sur le tapis, éparpillant les mouchoirs et les chaussettes. L'amphisbène devenait une sorte de maison hantée, pleine de gémissements bizarres et de bruits étranges. J'ai voulu voir comment Antoine supportait ce branle-bas, et je me suis dirigé, non sans peine, vers la cabine qu'il occupe. Il était couché dans son lit, un livre à la main, mais il faisait assez piteuse mine. Il semblait anxieux sur la durée de l'épreuve que nous subissions. Avouerai-je que je ne fus pas fâché de son inquiétude. Depuis le soir du dîner à Malte, j'étais un peu agacé des prévenances nouvelles qu'il manifestait pour l'or. Ces prévenances réveillaient mes vieilles préventions. Je n'aimais pas retrouver en lui l'Antoine avantageux de jadis. Je préférais l'Antoine abattu et gémissant avec lequel je m'étais réconcilié. Aussi le regard angoissé qu'il me jeta en me demandant si je croyais que le mauvais temps durerait ainsi toute la nuit, me redonna-t-il de l'amitié pour lui. Je le rassurai, la Méditerranée est une mer capricieuse. Elle s'irrite aisément et se calme de même. Nous n'avions connu jusqu'alors que ses sourires, il était juste que nous lui pardonnassions ses incartades. En disant cela, je fais tous mes efforts pour conserver mon équilibre. En sortant de la cabine d'Antoine, je pénétrai dans celle de Gernon. Oh, le pauvre Gernon était très abattu. Accroché à un porte-manteau, son mirifique complet vert faisait de grands gestes et se balançait comme un épouvantail sous le chapeau tyrolien qui projetait des ombres bizarres et mouvantes. Gernon m'interrogea avec anxiété. Les circonstances nouvelles de son périple avaient calmé son enthousiasme maritime. Recroquevillé dans son lit, il semblait s'être ratatiné et avoir perdu le commencement d'embonpoint que lui avait valu la table de Mme Bruvan. En réalité, il était terrorisé. Son fossette exaspéré décelait le trouble de son âme. On allait sûrement couler. Il entendait des craquements sinistres. La coque, une fois disjointe, on irait au fond de l'eau. Et comment avait-il eu l'idée de prendre part à ce maudit voyage ? Et le pauvre Gernon se lamentait d'une voix aigre qu'entrecoupait le choc régulier des lames contre les flancs du yacht. La terreur le rendait presque éloquent. Il se comparait à Ulysse, et la catastrophe qui nous menaçait lui rappelait les naufrages antiques. Il se voyait déjà cramponné à quelque épave, ballotté par les flots, et jeté sur une plage inhospitalière. Au moins, avait-on des ceintures de sauvetage et des bouées de secours, saurait-on seulement construire un radeau ? Sans prévoir ses extrémités, il était évident néanmoins que la mer devenait de plus en plus mauvaise. Les oscillations du roulis se faisaient plus brusques et plus profondes. Dans le tapis, des dépressions subites se creusaient sous mes pas, alternant avec des soulèvements inattendus. Je parvins ainsi jusqu'à la cabine de Mme Bruvan. Comme la sienne, celle des subanis était close. Au bout du couloir, je m'aperçus avec surprise que la cabine de Mme de Lérin s'était ouverte. La porte qu'elle avait oublié de fixer au crochet battait violemment. Peut-être Laure était-elle incapable de se lever pour fermer cette porte. Je m'approchai discrètement. L'électricité brillait. J'appelai Madame de Lérins. Aucune voix ne me répondit. J'avançai la tête. Le lit était vide. Laure était-elle donc montée sur le pont? Mais quelle imprudente! Avec peine, je retraversai le couloir en me tenant à la main courante et je grimpai l'escalier. Une des deux portes qui donnent sur le pont était solidement verrouillée. Je poussai l'autre de toute ma force. La pesée du vent m'offrait une réelle résistance. À peine dehors, un souffle violent mêlé d'embrun me heurta et m'aspergea le visage. Le yacht roulait sur une mer démontée qui s'agitait en sombre masse blanchie d'écume. Le ciel était sans un nuage, d'un azur noir, lointainement étoilé. C'était vraiment un spectacle magnifique que cette fureur de la mer par une nuit pure. Peut-être Madame de Lérins s'était-elle réfugiée au salon. Je me dirigeais de ce côté. Le salon était obscur et vide. L'or n'était pas non plus sur le pont arrière. On avait enlevé l'étoile de la tente. Une grosse lanterne japonaise, oubliée et que le vent avait mise en lambeaux, se démenait comme un oiseau captif au bout d'un fil. Sur la passerelle, le timonier, les deux mains à la roue du gouvernail, surveillait la boussole dans l'habitacle. Auprès de lui, le commandant, M. Lamondon, examinait la mer d'un œil attentif. Bon, M. Lamondon n'avait vu personne. Je commençais à être inquiet quand une pensée me traversa l'esprit. Madame de Lérins était probablement chez Madame Bruvane. Cette supposition me soulagea. J'étais étourdi de vent et de roulis, et comme j'allais entrer pour me reposer un peu dans la chambre des cartes, dont l'abri vitré se trouvait là, je fus accueilli par un grand éclat de rire. Madame de Lérins s'était étendue sur le divan et fumait paisiblement une cigarette. « Eh bien, mon cher, vous ne me faites pas de compliments. Avouez pourtant que j'ai le pied marin. Quelle bourrasque !»« Alors, comme je m'ennuyais dans ma cabine, sans pouvoir dormir, je suis venu m'installer ici. Alors, asseyez-vous près de moi. » Mais ne me regardez pas, car le vent m'a plutôt décoiffé. Elle me faisait place sur le divan, en remontant ses petits pieds, nus dans leur mule de cuir vert. Ses beaux cheveux, aux nattes desserrées et ébouriffées, croulaient lourdement sur sa nuque. Sa robe, mouillée par un embrun, collait à l'un de ses genoux. Elle exhalait une odeur tout à la fois marine et voluptueuse. C'était le parfum de la sirène. Je m'étais assis auprès d'elle et je lui pris la main. « Mais vous êtes trempé, Laure !» Elle se mit à rire. « Oui, ça, c'est vrai. J'ai reçu un fameux paquet d'eau en arrivant sur le pont et j'étais arrosé d'une belle façon. Oh, j'ai même reçu là ma première gifle. Mais la mer ne me fait pas peur. J'ai déjà traversé deux fois l'Atlantique en allant en Amérique et en en revenant. J'ai vu mieux à la hauteur de Terre-Neuve, ici, ce n'est qu'un petit coup de vent, de rien du tout. Et puis sentez comme il fait tiède et doux. Pouh, j'ai trop chaud. » Elle écarta l'écharpe dont elle était enveloppée. Elle portait une robe en étoffe légère et presque transparente et qui laissait deviner la forme de son corps. La mule verte se recourbait gracieusement à son pied nu. Au dehors, le vent soufflait avec brutalité, la mer se gonflait de lames furieuses. Cette violence des éléments contrastait singulièrement avec la fragile et délicate beauté de l'or. Ah, que j'eusse voulu la prendre dans mes bras, la serrer sur mon cœur. Et brusquement, je tendis les mains vers elle en m'écriant. « Oh, Laure, Laure, comme vous êtes belle et comme je vous aime !» Si jamais dans ma vie je fus éloquent, si jamais j'ai pu exprimer tout l'amour que contient un cœur d'homme, ce fut cette nuit-là, dans cette étroite logette balancée par la houle. Parfois le tumulte du vent était si fort qu'il dominait mes paroles. Alors l'eau s'inclinait doucement vers moi pour m'entendre. À ces moments, elle soulevait sa tête du coussin de cuir sur lequel sa nuque reposait. Elle se penchait en avant, elle semblait m'écouter avec plaisir. J'étais enivré de ma propre passion. Je lui en disais les racines profondes et l'épanouissement soudain. Je lui disais l'admiration que sa présence m'avait immédiatement inspirée. Je lui avouais enfin tous les pauvres secrets de mon âme et de ma vie. Ah, quel soulagement j'éprouvais, après tant de semaines d'hésitation et de silence, à lui parler librement et ardemment. Certes, c'eût été pour moi un immense bonheur si le mot que, sur la terrasse de Montréal, et elle ne m'avait pas fait prévoir, comme impossible, était sorti de ses lèvres. Oui, c'eût été pour moi une indicible joie de la saisir dans mes bras et de poser ma bouche sur sa bouche. Mais l'amour doit savoir être humble et patient. À travers mes espérances, c'est à elle de comprendre mes désirs. Laure m'écoutait d'un visage attentif et souriant. Pendant ce temps, la tempête redoublait. L'amphithéâtre même, soulevé par de hautes et rudes vagues, retombait lourdement. Je m'étais tu et j'avais repris la main de Laure entre les miennes. La main de Madame de Lérins s'était glacée. Par la porte, une fraîcheur subite pénétrait dans la chambre des cartes. L'aube sans doute était proche. Laure frissonna légèrement et ramena sur ses épaules l'écharpe dénouée. D'elle-même, elle porta sa main à mes lèvres et se leva du divan. Oh, je crois, mon ami, qu'il serait plus sage de regagner nos cabines. Mais avant de descendre, allons voir ce que dit le commandant. Elle s'appuyait sur la paroi de la chambre pour résister au roulis et elle me précéda sur la passerelle. J'avais jeté sur elle un plaid oublié sur le divan et je l'en enveloppais. Une fois dehors, nos oreilles s'emplirent des bourdonnements du vent. Sa poussée nous fit chanceler. Instinctivement, Laure s'était appuyée sur moi. Ce contact me fit frémir. Enhardi par l'ombre, je passai mon bras autour de la taille de Madame de Lérins afin de la mieux soutenir. Elle me laissa faire sans se dérober. Était-elle indifférente à cette timide étreinte? Y consentait-elle? Je ne la desserrai que lorsque nous fûmes arrivés auprès du commandant. Le second, M. Bertin, l'avait rejoint. Nous les interrogeâmes. Oh, le vent ne faiblissait pas, et la houle éprouvait assez péniblement le bateau, qui avançait difficilement. Nous avons fait peu de chemin durant la nuit, et la crête était encore loin. Quant à la bourrasque, rien n'en annonçait la fin. Nous en étions là de nos propos, quand une ombre titubante parut sur la passerelle. C'était Antoine Hurtin. Dans la lueur incertaine de l'aube commençante, il était verdâtre et avait une figure décomposée. Le mal de mer ne l'avait pas épargné. D'une voix furieuse, il interpellait le commandant. « Dites donc, commandant, est-ce que cela va durer longtemps, cette danse-là? Vous savez, moi j'en ai assez. Est-ce que l'on ne pourrait pas s'abriter quelque part et laisser passer cette chienne de bourrasque ?» Le commandant Lamondon exposa la situation. À la vitesse avec laquelle marchait l'amphisbène, il faudra bien une dizaine d'heures avant d'atteindre le port de Candy, car malheureusement, l'état de la mer ne faisait pas mine de s'améliorer. Antoine frappait du pied rageusement tout en se cramponnant à l'épaule du second Bertin. « Il faut tout de même trouver un moyen de sortir de là. Nous ne pouvons pas continuer à être secoués ainsi. Nous faisons un voyage d'agrément, que diable !» Le commandant se grattait la tête. « Il y aurait bien un moyen, monsieur le baron. Ce serait de changer de route et de filer vent arrière. Le bateau roulerait moins, seulement. » Seulement, il y a un petit inconvénient, c'est qu'à l'heure nous tournerons le dos à la crête. Tenez, voyez-vous-même, monsieur le baron. » Le commandant avait allumé l'ampoule électrique qui éclairait la carte dépouillée sous le verre du pupitre. Antoine poussa une exclamation. « La crête, mais nous en foutons, monsieur Lamondon. L'essentiel, c'est d'en finir le plus tôt possible avec cette balançoire. Moi, j'en ai assez. » Et vous aussi, n'est-ce pas, Madame de Lérins? Un coup de vent furieux arracha presque le plaid où s'enveloppait Madame de Lérins et plaqua sur son corps la robe légère qu'elle portait. En même temps, un énorme paquet d'eau coiffa l'avant de l'amphisbène et nous aspergea de ses écumes. Je soutins Madame de Lérins. En nous voyant ainsi, Antoine eut un regard narquois et intéressé. Je devinais sa pensée. La familiarité du geste nécessité par la situation lui paraissait un indice que j'avais su profiter du désordre de cette nuit. Je pénétrais ses suppositions. J'en sentis une vive irritation, une sourde colère. L'œil ironique d'Antoine m'exaspérait. Madame de Lérins avait rattrapé le plaid et s'en enveloppait de nouveau. Il faisait clair maintenant sur la passerelle. « Alors, je vous laisse. Il fait presque jour et je dois avoir une singulière tête. Je n'ai pas envie d'être vu en détail, même par un misogyne comme Monsieur Hurtin. » Avant que j'eusse pu lui offrir de l'accompagner, Laure avait gagné l'escalier et dégringolé les marches en riant. Je me penchai sur la rampe. Elle se retourna, m'adressa un signe d'adieu. Un instant après, elle avait disparu. Sur la passerelle, Antoine verdissait et pâlissait. Le commandant s'est approché de lui. « Alors, monsieur le baron, c'est bien décidé. » Antoine acquiesça d'un signe. Le commandant donna un ordre au timonier. La roue tourna sous sa main. L'amphisbème fuyait au vent. J'ai ramené Antoine dans sa cabine et je suis allé m'étendre sur mon lit. La mer est tout à fait calme maintenant. La houle est devenue presque insensible. La bourrasque a donc duré environ 36 heures. Aujourd'hui, la matinée a été pure et claire. On a ouvert les obturateurs des hublots. Parfois encore, une vague rend glauque le rond de cristal lumineux et y dessine un écume comme une fuyante chevelure de sirène. On a remis de l'ordre dans ma cabine. Les chaises sont redevenues de braves chaises tranquilles. Mes chaussettes et mes mouchoirs ont réintégré le tiroir, lequel est rentré dans la commode. Après le tohu-bohu que nous avons subi, on éprouve une agréable impression de paix et de repos. Quand j'eus terminé ma toilette, je suis monté sur le pont. Sur notre gauche, à l'extrémité de l'horizon, se dessine une ligne bleuâtre. C'est la côte d'Afrique que nous commençons à distinguer. Tel est le résultat du changement de roue de l'amphisbène et de sa fuite devant la tempête. Ainsi l'a voulu le caprice d'Antoine. À ce moment, j'aperçois Gernon qui vient à moi en me faisant les grands bras. Mais qu'a-t-il donc à s'agiter ainsi ? J'ai bientôt l'explication de ses gestes. Le pauvre Gernon vient d'éprouver une grave déception. Ayant demandé à M. Bertin quand on arriverait en Crète, le second vient de lui apprendre la modification apportée par Antoine à notre itinéraire et que dans quelques heures, au lieu d'aborder à Candie, nous entrerions dans le lac de Tunis. Antoine a négligé de prévenir Gernon, et Gernon est furieux. Pas de Crète, alors que va devenir l'article sur les fouilles de Knossos et les ruines du palais de Minos qu'une grande revue a commandé à Gernon. Or, il s'agit d'une somme importante, et les récriminations de Gernon prennent une forme aiguë. Son fossé atteint son extrême diapason. Ah, mais ils sont vraiment étonnants, ces gens riches. Quelle sans-gêne, quelle indifférence aux intérêts d'autrui. Ils se croient tout permis. Est-ce qu'ils s'imaginent que l'on n'a rien de mieux à faire que de les abuser? Est-ce qu'ils supposent que l'on vit de leur bonne grâce? Leur égoïsme est vraiment sans borne. Que les autres s'arrangent comme ils peuvent. Pour eux, rien n'est trop bien et trop coûteux. Ainsi ce gros Antoine Hurtin, avec sa neurasthénie de fêtard, dont quelques bonnes douches auraient eu raison, il lui a fallu fretter un yacht pour trimballer ses grimaces de faux malade. Et si encore il était poli et attentionné, mais non, tout pour lui, rien pour les autres. Et le pauvre Gernon ne dérache pas. Oui, un joli monsieur que ce monsieur Hurtin, qui s'est perdu la santé à faire la noce, qui a passé sa vie à jouer aux cartes, à souper, à chasser, à courir les actrices, et tout cela aux dépens de sa tante, car il lui en a coûté de l'argent à la digne Madame Bruvane. Cela, il le sait par ses amis Subagny. D'ailleurs, il finira bien par la ruiner, sa tante, le gaillard. Il n'y a pas de fortune qui résisterait. Certes, oui, Madame Bruvane est riche, mais enfin, on n'a pas pour rien, n'est-ce pas, pendant 2 mois, un yacht comme l'Amphisbène. Et Gernon, avec un curieux mélange de respect et de blâme, m'énumère le revient d'une croisière comme la nôtre, ce que l'Amphisbène représente en location, en charbon, en nourriture, en frais de toutes sortes. Son âme d'avare souffre de cet argent dépensé autour de lui, et dont cependant il profite dans une certaine mesure. Mais cet argent est celui de Madame Bruvane, et je me demande si Gernon ne se serait pas, pour tout de bon, imaginé que Madame Bruvane ne dédaignerait pas ses avances. En ce cas, Gernon voit dans les dépenses d'Antoine un attentat à ses futurs intérêts personnels. Puis il revient sur la déception que lui cause et sur le tort que lui fait notre changement de route de l'autre nuit. Renoncer à la crête pour un petit coup de vent, mais quel capon, mais quelle poule mouillée que ce monsieur Hurtin! Et Gernon, sa petite figure rose et ridée et rafraîchie par le mal de mer, a oublié la triste mine qu'il faisait dans sa cabine, la crainte qu'il témoignait à chaque oscillation du roulis, sa peur comique de faire naufrage. Revêtu de nouveau de son complet vert, coiffé de son chapeau tyrolien, il pérore avec mépris contre le gros Antoine, tandis qu'à l'horizon grandit peu à peu dans l'air limpide la côte de l'Afrique, rapprochée et inattendue.